Bienvenue sur Micro Standard.
Cabo la barre.
Pas de bazar.
Rien que des bavards.
Il y aura pas de lézard.
Juste quelques bobards.
Hasard.
Rancard.
Tard.
Zona.
Espoir.
Regard.
Trop tard.
Zanzibar.
Pas de bagarre.
Cabo la barre.
Zona.
Rancard.
Bazar.
Bienvenue sur Micro Standard. Le thème de cette nouvelle émission est le voyage sous toutes ses formes. On peut voyager de sa chambre en lisant un bon bouquin, en regardant la télévision, en écoutant de la musique, tout comme en s'éloignant loin de ses pénates. Tout le monde ou presque a voyagé un jour dans sa vie, que ce soit en voyage scolaire, en colonie de vacances, ou plus tard lors de vacances bien méritées. On pourrait écrire tout un roman sur le mot voyage. Il évoque le rêve, la spiritualité, le dépaysement. Et vous, avez-vous un peu de temps devant vous pour voyager avec Micro Standard? Pour cette 11e édition de Micro Standard, nous vous invitons à voyager avec nous. Nous partirons d'abord sur les routes des États-Unis avec Jack Kerouac, puis à Buenos Aires dans le quartier de San Telmo sur un air de tango. Pour sa chronique musicale, Mike nous emmène en Israël. Ensuite, Daniel nous racontera la véritable histoire de Robinson. Attendez-vous à quelques révélations sulfureuses. Nous terminerons nos escapades en abordant le voyage pathologique avec Yvonne. À mes côtés pour toute cette émission, Bruno, notre chroniqueur musical. Bonjour Bruno.
Bonjour Mick, bonjour à tous.
Alors, qu'est-ce que tu nous as concocté comme programmation?
Eh bien, nous allons partir sur les routes de Memphis, une chanson d'Eddie Mitchell.
Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Et la radio me vantait un truc débile qui m'endormait. Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Je viens vers toi, tu m'attends dans ta robe blanche. L'amour en province ressemble un peu à un dimanche. Sur le siège avant, le chauffeur buvait de la bière en regardant l'heure. Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Du mort, un chien loup me jetait un regard un peu fou. Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Je viens vers toi, mais pas dans une Rolls-Royce blanche. Dans un costume un peu élimé aux manches, j'ai le droit de me taire et fumer en gardant mes manottes au poignet. Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Pour une fois les flics ont gagné. Vers chez toi je ne fais que passer. Sur la route de Memphis, sur la route de Memphis, sur la route de Memphis, sur la route de Memphis. Ah.
Kerouac l'a sûrement prise, cette route, Bruno. Justement, Daniel nous emmène sur les traces de Kerouac.
Le vrai voyageur ne sait pas où il va.
Jacques Kerouac, une obsession de ses origines bretonnes. L'écrivain américain Jacques Kerouac est né en 1922 à l'est des États-Unis, dans le Massachusetts, d'une famille d'origine franco-canadienne. Jusqu'à l'âge de 6 ans, il ne parlera que le français. Mort à 47 ans, victime de tous les abus, alcool, drogue, orgie, il incarne The Beat Generation, ou contre-culture de l'après-Seconde Guerre mondiale, tout comme The Lost Generation, ou Génération perdue, avait marqué la contre-culture suite à la Première Guerre mondiale. C'est à lui que nous devons le terme « beat » tiré de l'argot américain « cassé » ou « fatigué ». Plus tard, il donnera le mot « beatnik », symbole de liberté et de transgression des tabous. Dans les dernières années de sa courte vie, la quête de son identité bretonne deviendra une véritable obsession. Il connaît le nom de son lointain ancêtre, débarqué en Nouvelle-France, le Québec aujourd'hui, dans la première moitié du XVIIIe siècle. Il se nomme Maurice-Louis Lebrise de Kervoac. Sa belle apparence et son nom laisseraient à penser qu'il est issu d'une illustre famille bretonne. À sa mort, ses héritiers rechercheront un hypothétique fructueux héritage en vain. Point de Lebrise de Kervoac en Bretagne. Longtemps après, Jacques Kerouac viendra en France, à Paris tout d'abord, où il s'enferme à la Bibliothèque nationale. Il passe au tamis la liste des officiers de l'armée de Montcalm, commandant général des armées en Nouvelle-France. Maurice-Louis Lebrise de Kervoac s'y trouve peut-être, mais non. Ensuite, il se rend à Brest. Il a appris l'existence d'un libraire érudit, Pierre Lebrise. L'espoir d'une parenté le taraude. Mais le patronyme Lebrise est répandu. Toutefois, Pierre Lebrise, pendant que Jacques Kerouac est davantage enclin à siroter son cognac, accepte de l'aider. Mais la piste est une impasse. La suite, vous la connaissez. Dopé par la benzédrine, Jacques Kerouac écrira, sans prendre un seul instant de sommeil en 20 jours et 20 nuits, son chef-d'œuvre, ouvrage autobiographique « On the Road », sur la route. Lisez-le, assis confortablement dans votre fauteuil, et vous traverserez les USA d'est en ouest, soit environ 4000 km, comme si vous y étiez. À un détail près, Jacques Kerouac, pour se déplacer, à utiliser les moyens du bord parce qu'il était dépourvu d'argent. Cependant, si vous désirez suivre son long périple et que vous ne localisez pas parfaitement les 50 États des États-Unis, un sage conseil, munissez-vous d'une carte ou alors je gage que vous aurez tôt fait de vous égarer à travers les grands espaces aux horizons incertains que Jacques Kerouac a si bien décrit. Les années s'écoulent. Jacques Kerouac est mort depuis longtemps. Lorsqu'une généalogiste, Patricia Dagier, après de longues recherches, trouvera de manière irréfutable la clé de l'énigme. Maurice-Louis Lebrise de Kerouac s'appelait en réalité Urbain François Le Billon de Kerouac, fils d'un notaire de Huelgoat. Frappé d'infamie suite à une sombre histoire de mœurs, il s'était exilé dans l'actuel Québec en ayant pris soin de falsifier sa véritable identité. Aujourd'hui, les descendants de l'aïeul banni sont très nombreux, tant au Canada qu'aux États-Unis, mais leur patronyme est orthographié de différentes façons.
Nous changeons de pays avec le Sesteto Mayor, très grand groupe argentin, qui va vous faire danser sur le titre « Firule l'été ».
Thank you. On peut voyager, non pour se fuir, chose impossible, mais pour se trouver.
Cette musique vous a peut-être donné envie de danser, ah, nous aussi. Notre reporter Thierry a rencontré Bertrand pour tout nous dire sur le tango.
Et maintenant, nous allons voyager jusqu'en Argentine pour évoquer le tango argentin avec Bertrand. Alors Bertrand, comment as-tu découvert le tango ?
J'ai découvert le tango à travers les réfugiés argentins qui ont rejoint la France après la dictature militaire, quoi. Après la, comment dire, la, pas la naissance, la, le coup d'État qui s'est passé à Buenos Aires et qui a fait, qui a donné une forte émigration argentine en France, quoi. Donc c'est dans un milieu argentin à Paris, un milieu de réfugiés argentins à Paris, que j'ai découvert le tango, quoi. Voilà. Tout ça, c'est un peu long,
mais bon. Connais-tu l'Argentine ?
Oui, j'y suis allé en 96, passé 2 mois, et donc voilà, quoi, c'est là que j'ai découvert sur place cette musique populaire dans des quartiers précis, dans un quartier précis à San Telmo, ainsi qu'à La Boca, quoi, qui est le lieu de naissance du tango argentin, quoi.
Et quelle différence y a-t-il entre le tango argentin et le tango musette?
Ben, c'est très simple. Le tango musette est joué avec de l'accordéon d'une manière beaucoup plus rapide, rythmique, alors que le tango argentin est joué avec un bandoneon, un gros bandoneon, et beaucoup plus harmonieux, quoi, dans le sens harmonique, quoi. C'est-à-dire que, bon, est beaucoup plus dansant aussi que le tango musette, quoi.
D'accord. Raconte-nous ta rencontre avec le tango à Buenos Aires.
Ben, le tango à Buenos Aires, c'est très simple. Il y a un quartier pour ça, deux quartiers pour ça. Il y a un quartier San Telmo, qui s'appelle le quartier San Telmo, où les gens passent leur week-end à écouter des gens qui jouent du bandoneon et sur cette musique-là, d'autres personnes se mettent à danser du tango, le tango, quoi. Donc il y a un peu, comment dit-on, il y a un peu une, pas une concurrence, mais comment dire, il y a une stimulation, je ne sais pas comment dire ça, entre les couples, quoi, celui qui dansera le mieux le tango. Donc ça, c'est à San Telmo, et par contre, à La Boca, c'est plutôt la nuit. Là c'est là qu'arrivaient les Européens fin 1800. Les immigrés arrivaient à La Boca, quoi. Et donc c'est là qu'est arrivé aussi, qu'a été créé le tango, quoi.
Je crois, Bertrand, que au tout départ, le tango était dansé entre hommes.
Oui, effectivement. Le tango, au début, a été dansé essentiellement entre hommes jusqu'à début 1900. Tout simplement parce qu'il n'y avait que des hommes qui migraient en Argentine. Les femmes sont arrivées à peu près aux alentours, du moins, quand je dis que les femmes sont arrivées, c'est par grande migration, aux alentours de 1920-1930, quoi. Et à partir de là, seulement, le tango est devenu mixte, quoi. Mais originellement, il était dansé qu'entre hommes, quoi.
Quel type de personnes viennent danser le tango à Buenos Aires ?
C'est essentiellement des gens de la petite bourgeoisie, voire de la bourgeoisie, quoi. Ça fait partie maintenant de loisirs, de nouveaux, si on peut dire, loisirs argentins. Mais le tango ne fait plus partie des classes populaires, quoi, n'est plus dansé par les classes populaires. Hormis, je pense, exceptionnellement. Mais bon, d'une manière générale, ce sont les classes moyennes et la bourgeoisie qui danse le tango.
Je crois, Bertrand, que tu connais une anecdote à propos de Carlos Gardel.
Oui, là, tu parles de la statue qui surplombe sa tombe. Donc, cette petite anecdote, c'est tout simple. Donc, tu as une statue qui est au-dessus de sa tombe. Tu as Carlos Gardel qui tend son bras avec ses deux doigts écartés comme s'il tenait une cigarette. Ouais. Et effectivement, il a une cigarette, une vraie cigarette qui est allumée en permanence, quoi. Et donc, c'est un petit jeu argentin. Il ne faut pas que que Gardel reste sans sa cigarette, quoi. Donc, ça arrive effectivement qu'il n'ait pas de cigarette entre ses deux doigts, mais c'est rare, quoi.
C'est rare.
Ouais, c'est rare.
D'accord.
On ne voyage jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où on va.
Bienvenue à l'aéroport de Lisboa, de la Sacaba. Para os aviões com destino a Stuttgart, Madrid, Oslo, preste atenção aos painéis de informação.
Bonjour, ici c'est Bruno qui va vous parler de Ishtar, une chanteuse israélienne, et Michael va nous la présenter.
Elle est née d'une mère égyptienne et d'un père espagno-marocain. Mais toutefois, elle est de nationalité israélienne.
Comment est-elle arrivée à la chanson ?
Eh bien, son parcours est atypique. Comme elle est née en Israël, elle a commencé comme mécanicienne sur les pilotes de chasse. Là-bas, c'est obligatoire pour les filles. C'est en arrivant en France qu'elle a commencé sa carrière de chanteuse.
Ses chansons, je crois, sont très particulières.
Tout à fait, elles sont très engagées. Elles parlent de manière ludique, de guerre, d'abus de pouvoir, et même parfois d'amour.
Elle n'a jamais eu de problème à sortir des CD dans son pays ?
Effectivement, dans les années 2000, ça a posé quelques problèmes. Pourtant, elle est considérée comme chanteuse de variété internationale, car elle chante en deux langues. Je dirais même trois, si je compte le français, l'anglais et l'arabe.
Alors Mike, dis-moi comment tu l'as connue et aimée.
Eh bien, tout d'abord, je l'ai rencontrée, si je puis dire, par le biais de La Vérité si je mens. Et ensuite, j'ai trouvé son album chez Paroles et Musique à Vannes. Elle m'enchante telle Sherazade, la princesse des mille et nuits. Une petite précision. Elle chante aussi en hébreu, puisqu'elle a fait sa scolarité en Israël.
Je suis d'un coin du ciel que tu ne vois pas, une terre éternelle où le soleil est roi. J'ai le sable et le sel partout sous mes pas. Je pense à toi. Je t'envoie tous les parfums d'Orient dans le souffle des vents. Je t'envoie la douceur éternelle dans un écrin de miel. Je t'envoie la caresse du temps dans les yeux d'un enfant. Je te sais dans la ville où mille lumières.
En route, le mieux c'est de se perdre. C'est alors, mais alors seulement, que le voyage commence.
Qui voit Molène voit sa peine, qui voit Saint voit sa fin. Wesson, c'est un charme insulaire, c'est des maisons traditionnelles du New. Pour terminer, je dirais que pour moi, les voyages scolaires constituaient un facteur de cohésion sociale.
Nous retrouvons Alain Barrière, chanteur breton qui s'est fait connaître avec le titre « Ma vie » en 1964. Il interprète « Tu t'en vas » avec Noël Cordier. C'était en 1974.
meilleur qu'on puisse ramener du voyage, c'est soi-même.
En 1962, je suis allé aussi en colonie de vacances à Saint-Dié dans les Vosges. Là, nous avons été très libres. C'était loin d'être le bagne, au contraire, c'était très savoureux. On a découvert les myrtilles, on a été en Allemagne, à Fribourg, revenu par Strasbourg.
C'est tout simple. Direction la plage du Théven. Voilà, j'y suis. Je foule le sable, je regarde la mer, j'écoute le bruit des vagues. Ça y est, je me dépayse. Et je suis bien.
Vous êtes toujours à l'écoute de Micro Standard. Nous poursuivons cette émission sur le thème du voyage avec Daniel qui nous fait débarquer sur l'île de Robinson Crusoe.
Aventure dans les îles ou la véritable histoire de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, naufragé, trafiquant d'esclaves, survit 28 ans sur une île déserte, résiste à une attaque de cannibales et se paxe avant l'heure avec Vendredi. Il aurait été plus simple pour Daniel Defoe d'inventer le fil à couper les beurres, car la véritable histoire de Robinson est en elle-même suffisamment incroyable. En février 1709, un navire britannique jette l'ancre au large du Chili. C'est un équipage de forbans qui pille bateaux et possessions espagnoles. Une chaloupe se rend à terre dans l'espoir de trouver des provisions. Surprise ! Le soir, des lumières sont visibles sur la plage. Sus à l'ennemi ! Tout le monde à son poste de combat ! Apparaît alors, dans la clarté d'un feu de paille, un homme sauvage, vêtu de peau de chèvre, qui ne parle presque plus. Il retrouve peu à peu ses esprits et donne son nom, Alexander Selkirk. Il s'agit d'un Écossais, débarqué sur l'île 4 ans auparavant, par son capitaine, suite à une violente altercation. Celui qui inspirera Robinson Crusoe à Daniel Defoe, roman écrit en 1719, raconte alors son histoire au marin ahuri. Son odyssée commence à 27 ans, en 1703. Il rejoint un équipage et pendant 2 ans écume le Nouveau Monde, dépouillant les Espagnols de leur or. Mais le navire est en si mauvais état que Selkirk s'inquiète. Il en avise le capitaine, mais le ton monte entre les deux hommes. Comme beaucoup d'Écossais, Alexander Selkirk a le sang vif et une forte tête. Manu militari, le capitaine débarque ce fauteur de troubles capable de déclencher une mutinerie sur une île de l'archipel chilien jouant Fernandez. L'a-t-on convié à participer à Koh Lanta, muni au moins d'un sac de riz ? Que nenni ! Tout de même, il a un fusil, des balles, du tabac, une hache, un couteau, une bouilloire et une Bible, car il n'y a que la foi qui sauve. Le comble, quelque temps plus tard, le bâtiment qui a repris la mer, sans lui, ne résistera pas à une tempête et coulera, entraînant son équipage de damnés en enfer. Après une période de blues, notre vrai Robinson, gros Jean comme devant, s'organise. Point de cannibale en vue. Il bâtit deux huttes, fabrique des ustensiles, tue des chèvres, mange des huîtres. Pour se défendre des rats, il domestique des chats retournés à la vie sauvage. Au fond, il est presque heureux. Pas grand-chose ne manque à son bonheur, finalement, sinon un compagnon, mais pas de vendredi à l'horizon. Enfin, le 2 février 1709, après 4 ans et 4 mois de solitude, un navire anglais jette l'ancre devant l'île. Selkirk est sauvé. Il a 33 ans. Retrouve la santé, ses réflexes de marin et finit même par commander un navire. Quand il regagne l'Angleterre, sa part de butin le rend riche. Notre véritable Robinson reprendra la mer en 1720 à 44 ans comme officier à bord d'un vaisseau de guerre anglais parti combattre les pirates dans le golfe de Guinée. Selkirk périt l'année suivante après être tombé à l'eau lors d'une tempête. Qui sait, peut-être a-t-il pu gagner à la nage une autre île déserte.
Le plus grand voyageur est celui qui a fait un tour sur lui-même, Confucius.
Venez d'écouter Baltimora, un groupe italien new wave et disco des années 80.
Cette fois, destination inconnue pour le voyage pathologique que nous raconte Yvonique. Bonjour Yvonique.
Bonjour Mika. Alors le voyage pathologique, c'est vrai que ce n'est pas toujours le voyage plaisir. Le voyage pathologique, c'est le déplacement d'une personne sans but objectif. Le seul déterminant du voyage, c'est une motivation délirante. L'idée exprimée alors par la personne, c'est qu'elle cherche à fuir un complot imaginaire, ou alors qu'elle a une obscure mission à accomplir, et puis parfois elle a reçu l'injonction par des voix hallucinatoires qui font alors partie de sa maladie. Le voyage fait partie du délire de cette personne. Il s'intègre dans sa pathologie psychiatrique qui existe bien avant que débute le voyage et qui va alors l'amener peut-être à fuir des persécuteurs ou alors à rejoindre l'objet de son amour dans un délire érotomaniaque. Dans d'autres situations, le voyage devient alors une fuite. C'est un instinct de survie finalement. Et certaines personnes n'ont alors qu'une idée en tête, c'est fuir à tout prix cette voix obsédante qui les persécute et qui les empêche même de dormir. Le voyage n'est en fait alors qu'un symptôme, parmi d'autres, d'une maladie déjà connue.
Mais finalement, alors, c'est un peu comme une fugue, Yvonique ?
Alors non, non. La fugue, c'est le fait de partir de chez vous, de fuir sans prévenir la famille, les amis, ni dire donc où vous allez. C'est ça la fugue. Rien à voir non plus avec le syndrome du voyageur qui, alors là, c'est une réaction à un voyage qu'on a entrepris dans un but tout à fait louable et comme chacun d'entre nous peut le faire. Mais il faut savoir que chaque année, quelques touristes perdent la tête en arrivant à Paris, à Rome ou ailleurs, hein. C'est le contact avec une autre culture, un éloignement soudain, la perte des repères. Enfin, tout ça peut déclencher un tas de réactions anormales, voire très très angoissantes, qui peuvent conduire la personne à son arrivée directement à l'hôpital, comme à l'Hôtel Dieu à Paris, par exemple. Il y a des gens qui débarquent à Roissy qui se retrouvent à l'Hôtel Dieu. Donc le voyage pathologique, c'est comme je le disais, un symptôme qui peut intervenir dans les maladies psychotiques.
Bien, merci Monique pour cet éclairage sur un type de voyage qui est particulier, mais un voyage à part entière.
Moi je sais qu'un jour t'iras sur les kayaks de l'Alaska rejoindre les chercheurs d'or, Jack London du Mackenzie. Moi je sais, un jour tu iras sous les pavés de Manhattan, quand les chevaux de Geronimo remontaient la 5e avenue. Moi je sais, un jour tu iras dans ce train qui mène à Pékin. Tu embrasseras cet homme jaune dans un couloir du Transsibérien. Moi je sais, un jour tu iras sur les pirogues de l'Afrique. Tu rencontreras un serpent recouvert de plumes magiques. Moi je sais, un jour tu iras avec ce type plus beau que moi. Il sera plus jeune et plus fou, fera danser les bougalous. Moi je sais, un jour tu iras sur les kayaks de l'Alaska rejoindre les chercheurs d'or, Jack London du Mackenzie.
Nous venons d'entendre Un jour tu iras d'Yves Simon. Maintenant je vous laisse avec Mick. Au revoir et à la prochaine émission.
Je me souviens d'un jour de septembre 1984, je préparais mon sac pour une classe scolaire. Durant le voyage
que nous avons effectué à la frontière italienne, parce qu'à l'époque, on était encore loin du traité de Maastricht, le moniteur n'avait pas son passeport, et là, surprise, car les douaniers nous ont forcés à nous lever un par un en regardant nos cartes d'identité. Ils se sont moqués de nos autorisations de quitter le territoire et ils nous ont matés les uns après les autres. Et là, surprise, le tour du moniteur qui, lui, n'avait pas d'autorisation de quitter le territoire. Et avec ce douanier zélé, j'avais bien peur qu'on ne partirait jamais pour l'Italie. Finalement, il s'est montré compréhensif et nous avons pu partir à Suse, à la frontière italienne.
Le tourisme est le moyen qui consiste à amener des gens qui seraient mieux chez eux, dans des endroits qui seraient mieux sans eux.
Voici Linda Lemay, chanteuse franco-québécoise, et son titre « Il y aura toujours ».
Changer sa vie. Il reste toujours un nuage gris, un mensonge, une larme insensée flottant sur l'amour. Il reste toujours un visage enfoui dans nos songes qui nous séduit d'un regard étrange. Il y aura toujours d'autres routes et d'autres pays, d'autres maisons aux balcons fleuris. Il y aura toujours d'autres doutes et d'autres envies, d'autres raisons de changer sa vie. Il reste toujours dans nos rêves bleus un soleil plus fort, un autre milieu, un autre décor. Il reste toujours une histoire, un jeu et de nouveaux trésors en terre et plus creux dans des coffres en or. Il y aura toujours quelqu'un d'autre que moi ou que toi, quelqu'un qui tentera de nous faire oublier à quel point on est bien. Mais ce quelqu'un-là ne m'inquiète pas. Il y aura toujours d'autres routes et d'autres pays, d'autres maisons aux balcons fleuris. Mais il y a toujours ce toujours au bord de mes lèvres quand je parle de toi, ce toujours au bord de mes lèvres quand je parle de toi.
Bienvenue sur Microstandard.
Tiens, voilà, bar.
Pas de bazar.
Rien que des bavards.
Il y aura pas de lézard.
Juste quelques bobards.
Hasard.
Rancard.
Tard.
Zona.
Espoir.
Regard.
Trop tard.
Zanzibar.
Pas de bagarre.
Tiens, voilà, bar.
Zona.
Rancard.
Au revoir et merci de nous avoir accompagnés durant ce numéro de Microstandard. Une émission enregistrée, comme toutes les autres, dans les locaux du centre hospitalier de Morlaix. Vous pouvez réécouter cette émission et toutes les précédentes sur notre site internet www.stand-arts.com. www.radiomaria.org. Merci encore et à bientôt.
Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí.